Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. On a une petite heure ensemble pour s'échapper, faire fi des frontières, de ce virus qui empêche de voyager. Jusqu'à 14h, on va écouter comment on vit ailleurs. Et ailleurs, partout en fait, c'est le 14 février et les amoureux profitent de la Saint-Valentin pour se cajoler. Et parfois, c'est compliqué. Il faut être imaginatif, par exemple, pour organiser le petit dîner aux chandelles. Monsieur Coronavirus est passé par là, mais des hôteliers se sont mis en quatre pour rendre la chose possible. Vous allez l'entendre à Bruxelles. Et puis même sans pandémie, dans certains pays comme l'Égypte, pour être amoureux, il faut se cacher ou être prudent. Ce sont les traditions qui jouent les censeurs. Au chapitre du Covid-19, justement, on ira au Portugal, où le confinement dur risque de durer jusqu'à mi-mars. Vous et moi sommes invités dans une famille de Lisbonne pour entendre à quel point cette distanciation physique va à l'encontre de toute la vie sociale à la portugaise. Également dans ses carnets, hommage à un très grand monsieur, véritable passeur culturel. Le monde était un terrain de rencontre et de découverte pour Jean-Claude Carrière. Deux de ses amis proches nous parlent de lui, le grand Peter Brook, complice de toujours, et l'acteur et metteur en scène indien Raoul Vora. Enfin, on fera un tour en Algérie, à quelques jours d'une date qui risque de raviver l'agitation sociale et politique dans le pays. Il y a 2 ans, nous étions à la veille du Hirak, cette mobilisation populaire qui avait fait chuter le vieux président Bouteflika. Les carnets du monde sont ouverts et on commence en fêtant les amoureux.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Ok, c'est une fête commerciale. Et alors, ça fait toujours du bien de se dire des mots doux, de s'offrir des fleurs. Et la Saint-Valentin, c'est pile poil aujourd'hui. Alors on en profite dans les carnets pour écouter des amoureux bien déterminés à contourner les difficultés. Première étape, l'Égypte. Ou pour les jeunes, amour rime avec liberté et contrainte. Ou comment s'aimer en échappant au regard de la société qui reste majoritairement conservatrice. Voici le reportage d'Ariane Lavrieux.
Nadine et Sam se sont rencontrés à un atelier théâtre organisé sur leur campus privé de l'université américaine du Caire. Une occasion parfaite pour casser les codes hollywoodiens de la séduction.
On se connaît depuis 4 ans, c'est elle qui a fait le premier pas.
Parce qu'il bougeait pas d'un poil alors qu'il y avait une vraie alchimie entre nous. Donc je me suis dit, je sais qu'il m'apprécie, je vais proposer une sortie, il dira oui.
Dans la rue, au café, on ne s'embrasse pas en public, c'est très mal vu. Mais les tourtereaux, main dans la main, se sentent libres, et même plus, disent-ils, que la génération de leurs parents. Sauf que leur famille, plutôt fortunée, veut quand même garder le contrôle.
Je sais que ma tante a été mariée quand elle avait à peine 20 ans. Elle n'était pas prête. Moi, ma famille me répète, ils devraient te demander en mariage. Mais je sens que pour moi, c'est plus facile de leur dire non. On va à notre rythme. Ne nous pressez pas. Et ils sont beaucoup plus compréhensifs.
C'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant. Nous, on peut faire ce qu'on veut, aller voir des films, sortir ensemble, personne ne nous en empêche. Mais bon, il y a quand même des limites. Si on veut voyager ensemble à la mer Rouge, il faudra que ton frère vienne avec nous. Les valeurs familiales de ce pays sont encore basées sur les valeurs religieuses.
Pour Nadine et Sam, comme la plupart des jeunes Égyptiens, il y a une ligne rouge absolue, interdiction d'emménager ensemble avant le mariage.
J'espère vraiment que mes parents n'écoutent pas. Mais j'aimerais beaucoup voir ce que c'est que de vivre avec son copain. Mais ma famille et sa famille nous tueraient. Ou alors, il y a des chances pour qu'ils nous déshéritent.
Ouais, ce serait une grosse bataille.
Ouais, un énorme conflit.
Et preuve que le sujet est sensible, leurs parents ont refusé de donner leur point de vue à notre micro. Autre situation, celle de Rami, qui a 28 ans. Pour lui, dévoiler ne serait-ce qu'une partie de sa vie sentimentale à sa famille est carrément impensable.
Ils ne peuvent pas s'imaginer que leur fils est homosexuel. Je ne veux surtout pas qu'ils le sachent parce que je sais qu'ils ne l'accepteraient pas. Donc je vis ma vie de mon côté, ça suffit.
En couple depuis 1 an, ce graphiste a rencontré son amoureux grâce à une application sur Internet. Mais là encore, il a fallu être prudent car si l'homosexualité n'est pas interdite en Égypte, le régime militaire, conservateur, cible et arrête régulièrement des gays.
Je m'assure que le gars à qui je parle est honnête, qui n'est pas de la police, et donc je lui demande son profil Facebook, son Instagram, on s'écrit pas mal, on prend des précautions.
mais paradoxalement, la vie de couple homosexuel, une fois établie, est plus simple car moins visible pour la société.
Si vous êtes deux garçons en Égypte, vous pouvez faire beaucoup plus de choses que si vous étiez un garçon et une fille. Par exemple, j'ai réservé une location en bord de mer. On est resté 5 nuits. Et ça, c'est interdit pour une femme et un homme ensemble. Alors que deux gars peuvent réserver une chambre à deux. Il n'y a pas de loi qui interdit de voyager avec ses amis, mais bon, faut quand même demander deux lits séparés, le grand lit double, ça serait louche. Aujourd'hui, mon copain vit avec moi, on n'a jamais eu de problème.
Que les amours soient publics ou cachés, la Saint-Valentin est un des événements les plus célébrés en Égypte. Les ventes de fleurs et peluches explosent. L'enjeu est tel que même l'autorité publique en charge de la religion s'est donné la peine de déclarer cette fête commerciale de l'amour autorisée par l'islam. Au Caire, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Voilà, autorisé, mais sous surveillance quand même, hein, la Saint-Valentin. Et puis voilà une toute autre contrainte qui s'impose à la planète entière pour le coup. C'est le virus, synonyme d'éloignement, de confinement parfois, et en tout cas de vie bouleversée. Et si, malgré tout, pour cette Saint-Valentin, vous alliez au restaurant? En Belgique, comme en France, ils sont fermés, mais la nouvelle tendance, ce sont les hôtels qui proposent des repas gastronomiques en chambre, une manière de retrouver les sensations de la vie d'avant. Isabelle Horry est allée voir ça de plus près dans un hôtel du centre-ville de Bruxelles. Reportage.
Il est 19h. Deux par deux, ils s'avancent dans le couloir du rez-de-chaussée de l'hôtel vers les chambres aux portes ouvertes. Des couples ou des amis qui s'offrent une soirée un peu différente. Pour 149€, ils ont droit à deux chambres. La première pour manger et la seconde pour dormir. Bert van de Waterhe est le manager de l'hôtel. Il propose ce concept depuis le mois de novembre.
C'est justement des gens comme nous, comme vous, comme moi, qui vont avoir un moment pour eux. C'est des jeunes, mais c'est aussi des couples de 50-60 comme âge. Et les gens sont tellement contents qu'on donne cette chance. On a eu déjà des commentaires assez émotionnels que finalement, après 10 mois, j'ai vraiment parlé encore une fois avec mon épouse, et vraiment au fond. Ils ont ici, avec une table, une chambre autour d'eux, reste bloquée, je dois dire, 2-3 heures, on sert et ils parlent.
On prend un check et on teste. Les... Tu prends
le steak, toi. Mais il n'y a pas que des couples ravis de se retrouver en tête à tête, loin des enfants. Charlotte et Victoria sont deux amies qui ont réservé il y a quelques semaines. Ces deux jeunes bruxelloises qui adoraient sortir avant la pandémie n'en peuvent plus d'être enfermées.
On aime beaucoup aller au resto ensemble parce qu'on aime bien manger et bien profiter. C'est vrai que là, avec la crise, c'est vrai qu'on est un peu frustré parce qu'on sait se voir, mais tout est toujours un peu limité. Et donc, on avait envie d'une expérience un peu plus qui ressemble à un restaurant.
Je suis en télétravail, donc ça fait un an exactement que je vois tout le temps le même mur en face de moi. Même quand on commande en takeaway, ça arrive dans des petites barquettes et tout. T'as pas l'assiette qui est bien servie, la présentation. On espère qu'on sera pas déçus.
Pendant que les deux jeunes femmes boivent leur apéritif dans leur chambre à manger, à la lumière des bougies, en cuisine, l'équipe s'active.
Table 30, deux personnes. Il y a deux tartares et deux merlus, donc deux riz.
C'est vraiment un coup de feu maintenant. Donc le service commence. On a quand même 44 personnes qui descendent maintenant pour avoir quelque chose. Donc toutes les commandes vont rentrer.
Ayoub est l'un des cuisiniers, ravi de faire partie de l'aventure.
Je suis très content de travailler parce que, comme vous savez, tous les restaurants sont fermés. Alors, pour nous, c'est une opportunité. Ce soir, on a préparé un menu spécial pour les gens. Ce qu'on montrait, c'est un tartare de viande. Un autre choix, c'est le fromage de chèvre, un petit peu piquant.
Oh là là, oh là là, le champagne!
Chaque chambre est une bulle. Les serveurs et les serveuses sont masqués, mais les clients, eux, peuvent se détendre sans contrainte.
Déjà, sans le masque, moi, je me sens libérée. Et puis on n'est pas en train de checker l'heure et à se dire « Oh non, il est 9h30, il faut qu'on rentre et tout parce qu'on doit, il y a le couvre-feu. » Ici on est tranquille, on sait qu'on va manger et on monte en haut et ça y est quoi.
It is a beef tartare with okay. Some oyster sauce, with some truffles. Bon appétit, enjoy.
Thank you. Là on est chacun dans notre pièce mais il y a quand même l'ambiance où on arrive, on voit quand même les personnes qui nous montrent où est la chambre, qui nous installent ici dans la salle, un peu de contact humain. Je pense que c'est ça aussi qui manquait.
Pour la Saint-Valentin, Berthe propose un menu spécial et même de l'huile de massage dans les chambres. Ces dîners organisés une fois par semaine aident à garder l'hôtel ouvert, tout comme la salle transformée en espace de coworking qui accueille des étudiants la semaine. Toutes ces idées permettent de garder l'équipe motivée pendant les longs mois de restrictions.
Normalement, lundi jusqu'au jeudi, ils restent à la maison. C'est vraiment un chômage économique pour 100%. Vendredi, il y a 50% de notre staff restaurant qui vient justement pour faire les préparations. Et à samedi, tout le monde est là. Et c'était comme une grande famille que chaque samedi, on revoit tout le monde, comment ça va et tout, et on fait une bière après le service, vraiment avec les règles en sécurité.
Les dîners ont beaucoup de succès. Victoria et Charlotte sont à l'affût de ces expériences singulières.
On a essayé de trouver des choses insolites, mais tout est réservé jusqu'à fin décembre. Donc c'est fini, là. À mon avis, c'est la dernière expérience.
Puis surtout, on espère que c'est la dernière, parce qu'il va y avoir la réouverture des restaurants, des bars et tout ça. Et comme ça, voilà, ce sera le dernier truc insolite qu'on fait et qu'après, on pourra juste se retrouver toutes les semaines comme avant.
On croise les doigts, même si pour le moment, le gouvernement belge n'a donné aucune date pour une éventuelle réouverture des restaurants. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Et pour ceux qui n'ont pas trouvé de place ou de bonne idée pour ce 14 février, rien ne vous empêche de fêter la Saint-Valentin plus tard. On se souvient de cette infectiologue bruxelloise, justement, qui nous avait bien fait rigoler en suggérant de fêter Noël en juillet-août quand il fera beau. Étape suivante, le temps d'une petite pause, on se retrouve au Portugal, très confiné le Portugal.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Système de santé saturé, nombre de contaminations qui s'envolent. Le mois de janvier a été terrible au Portugal, qui est passé de meilleur élève européen à pays le plus touché du continent. Les images d'ambulances faisant la queue devant les hôpitaux ont frappé tout le monde. Bonjour Romain Oquet.
Bonjour.
Vous revenez du Portugal, on a entendu vos reportages cette semaine sur l'antenne d'Europe 1. Et ce qu'on va essayer de saisir avec vous aujourd'hui, c'est à quel point le confinement très strict imposé depuis le 15 janvier bouleverse le vivre ensemble à la portugaise. On vous suit d'abord dans une famille de Lisbonne qui vous a accueilli cette semaine. Reportage.
Deuxième étage, troisième gauche, derrière la porte, Philippe, la cinquantaine et quelques rides autour des yeux.
Hello. Bonjour. Bon dia.
Comment bon dit dia.
C'est dans cet appartement trois pièces, baigné de lumière, que lui, sa femme et leurs deux enfants passent leur journée confinés.
Comment il s'appelle ?
Nairobi.
Nairobi, c'est le lévrier de la famille, surexcité par cette visite inhabituelle, la première depuis décembre. Dans le salon, le sapin décoré trône encore.
Ça, c'est les arbres de Noël. Cette année, ça n'existe pas un grain de Noël. Peut-être qu'il va rester pour faire les Noëls pour les prochaines années. J'attends pour toucher ma mère et ma père.
Un Noël sans ses parents, restés dans leur maison du nord du Portugal, là où traditionnellement le banc et l'arrière-banc se serrent autour de la table. Philippe raconte ses repas de Noël à rallonge, la consoada, comme on dit ici, puis ce grand feu qui réunit tout le village.
Cette année, vous ne l'avez pas fait ?
Ouais.
Cette année, non ?
Non, cette année, Lisbonne, restez ici. Et WhatsApp, c'est le nouveau table pour faire les rendez-vous des familles.
Bon dia.
Comment?
Tania, enchantée, Romane.
Tania, c'est l'épouse de Philippe qui émerge d'une matinée de télétravail.
Est-ce que du coup vous avez une photo, juste pour me montrer à quoi ça ressemblait avant vos rendez-vous de famille?
Papa.
Donc la dernière fois qu'on était tous ensemble, c'était il y a très longtemps. Je n'ai plus rien dans mon téléphone. La société portugaise croit encore très fort aux valeurs de la famille, encore plus maintenant. C'est quelque chose qui me manque beaucoup, être avec ma mère, mes cousins. Il me manque toute cette énergie quand les enfants jouent autour de vous, avec tout ce bruit. Ça me manque bien sûr.
À l'autre bout de l'appartement, silence dans la chambre des deux garçons, leur casque sur les oreilles, ils suivent les cours à distance. Sur son lit, Toumé, 15 ans, révise sa leçon de maths. Au mur, un trésor accroché avec deux punaises, une écharpe bleue et blanche.
C'est le FC Porto, c'est mon équipe préférée.
Le football, l'autre religion du Portugal que l'adolescent pratiquait chaque jour après le lycée, son poste défenseur central.
À cause de l'épidémie, j'ai arrêté de jouer. Et il me manque ce sport collectif, partagé avec mes amis, avec mes collègues. Du coup, je vais courir seul, environ 5 km par jour. Mais oui, c'est sûr que sans mes amis, c'est pas la même chose.
Tu aimes
quelque chose ?
Un café, si vous avez ?
Les cafés, c'est le rendez-vous social, c'est le rituel social. N'oubliez pas que ce sont les Portugais qui font tous les voyages entre le Brésil et Portugal pour faire un mode à l'Europe qui s'appelle café.
C'est sacré.
Ouais, c'est sacré. Les rituels des cafés du matin, par exemple, ça, ils disparaissent. Par exemple, à ce moment, tu avais les cafés, peut-être nous vont faire un petit promenade ici et tu comprends ça.
Ça tombe bien, le chien veut sortir. Philippe m'emmène dans son quartier.
un quartier existe seulement ici. Tu as fait un café, un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept petits.
En une rue, sept cafés.
C'est incroyable.
Devant nous, une devanture jaune citron, c'est l'Arabesque, un café où jeunes actifs et personnes âgées profitent habituellement des rayons du soleil autour d'un galaon, mélange d'expresso et de mousse de lait.
Là, on voit, il n'y a même pas de terrasse, toutes les tables sont rangées,
ouais,
c'est un peu triste.
Ça, c'est un bon exemple, ouais, ça c'est un terrasse, c'est un... il a disparu. Voilà.
Impossible d'entrer, table et chaises barrent la porte vitrée. Ici, pas de café à emporter. Un sacrilège glisse Philippe qui refuse de boire le sien sur le pouce. José, le gérant, acquiesce. Il ne sert que des gâteaux, des douceurs présentées dans la vitrine.
Chocolate, tem marmelade, com geleia de morango.
Il dit, mais tu ne peux pas manger ici. C'est seulement outdoor.
Seulement à l'extérieur, alors les habitués ne font que passer pour un pain ou un bolo d'oreille, sorte de gâteau brioché, un crève-cœur pour José, installé depuis 1968.
Je suis triste, je suis préoccupé. Les clients font partie de nous. Sans eux, nous ne sommes rien. On ne sait pas gérer ce genre de situation. Le Portugal est un peuple de fête qui aime se saluer, se demander comment tu vas. Pour moi, cette fermeture, c'est comme une mutilation, car ils ont coupé la proximité avec mes clients.
Révolution, c'est un changement drastique de notre société. Il existe le Covid, avant le Covid et après le Covid. Comment sera notre socialisation? Je ne sais pas.
Vous êtes inquiet?
Oui, bien sûr.
Adeus.
Adeus.
Muito obrigado. Ciao.
Estrada Benfica, à Lisbonne, Romano Quai, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1, toujours avec vous Romane. On sent que cet arrêt quasi total de la vie sociale a profondément bouleversé les Portugais, quasi culturellement.
Oui, c'est exactement ça, parce qu'il y a d'abord cet attachement à la famille qu'on a entendu. Là-bas, la famille, c'est toujours au sens large d'ailleurs, avec les tantes, les oncles, les cousins, les cousines. Et avec les restrictions liées à l'épidémie, finis donc les week-ends passés les uns chez les autres autour de grandes tablées. Et c'est d'ailleurs parce que certains Portugais ont fêté Noël comme d'habitude, tous ensemble, en baissant un peu la garde côté gestes barrières, que le pays s'est retrouvé dans une telle situation en janvier. L'autre bouleversement que j'ai constaté en allant dans cette famille, ça concerne la place du religieux, parce qu'il faut le rappeler, le Portugal, c'est l'un des pays les plus catholiques en Europe. Même chez Philippe et Tania, par exemple, qui m'ont dit être non pratiquants, il y avait un immense portrait de Madone dans le salon. Et pour les plus âgés, le plus difficile à supporter, c'est la fin des messes dans les églises à cause de la pandémie. Et aussi, l'une des images qui m'a beaucoup marquée là-bas, c'est dans les cimetières où les prêtres étaient débordés face au nombre d'enterrements et les cérémonies religieuses étaient bien souvent expédiées en une poignée de minutes. Et ce moment de recueillement manquait cruellement aux familles que j'ai rencontrées.
Mais en fait, là, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été bien obligés de prendre le virus au sérieux.
Exactement. Ce que je peux vous dire, c'est que là-bas, le confinement est scrupuleusement respecté. Et d'ailleurs, en arrivant, j'ai vraiment été frappée par ces rues vides, cette atmosphère pesante dans Lisbonne, déserte, bien loin d'ailleurs de l'ambiance conviviale qui règne d'habitude et pas seulement l'été. D'ailleurs, il y a toujours de la musique, des bars qui débordent sur la rue. Tout ça, là, ça n'existe plus. Mais il faut dire qu'il y a quelques semaines, la situation était encore catastrophique. Au Portugal, fin janvier, il y avait 16 000 nouveaux cas par jour pour environ 10 millions d'habitants. En proportion, c'était presque 5 fois plus qu'en France. Voilà, vous imaginez le traumatisme que ça a pu laisser. Mais ce qui est positif, c'est que là, on se rend compte que le confinement porte ses fruits. Les contaminations baissent depuis la semaine dernière. Désormais, c'est autour de 2500 cas par jour. Donc, c'est 6 fois moins qu'au plus fort de la crise. Alors, rien n'est encore gagné puisque le taux d'incidence, lui, reste élevé. Et le confinement devrait donc être prolongé jusqu'en mars. Pour les Portugais, donc, il va falloir encore tenir un peu.
Tenir, on en est tous un peu là. Hein. Merci, Romane, pour ce regard un peu impressionniste sur ce que vivent nos presque voisins portugais. À bientôt dans les carnets.
Merci.
À suivre, une petite parenthèse musicale italienne et planante. Angèle Châtelier est avec nous dans un instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Un moment d'évasion. Voilà ce qu'on vous propose maintenant avec une musique dans le monde.
Musique.
Jeanne Châtelier.
Bonjour Sophie.
Et non, nous ne sommes pas en train de plonger dans un film de Tim Burton. Je pense à Edouard aux mains d'argent. Vous nous emmenez en Italie aujourd'hui avec Andrea Laszlo De Simone.
E lavorare per 10 ore, compiere sempre scelte di cuore, chiedere scusa per un errore, anche questa è immensità.
Andrea Laszlo De Simone vient de Turin. Son mini-album Immensità fait sensation à sa sortie il y a un an. Qu'avons-nous le temps de faire en 25 minutes? Un plat goûtu peut-être? Une sieste réparatrice? Un coup de fil à une amie éloignée? 25 minutes, c'est le temps que dure Immensità. Wow. Un projet musical qui s'articule autour de 4 chapitres. Le rêve, la réalité, l'espace et le temps. Teinté de paroles parfois ou simplement d'instruments au son lumineux dispersé.
Sur fond de pluie.
Oui.
Ce rêve, cette réalité, cet espace et ce temps, que cherche-t-il à nous dire Andrea Laszlo De Simone dans ce mini-album ?
Eh bien, ces 4 chansons s'articulent autour de la paternité, la sienne, ses joies comme le vertige que ça peut apporter. Andrea Laszlo De Simone a 34 ans et père de 2 enfants. Dans sa chanson Immensità, d'ailleurs, que l'on a entendue, il dit que tout cela est immensité.
C'est vrai,
la paternité est un mystère aussi. Je vous conseille d'écouter ce mini-album les yeux fermés pour laisser place à l'imagination et à l'errance de l'esprit.
Mistero. Riaccendi la luce. Chi c'era? Lì nella tua voce.
On entend ici combien sa musique est planante, mais parfois elle respecte les codes de la pop italienne, plus enjouée.
Oui, Andrea Laszlo De Simone est un autodidacte qui transforme chaque instrument, chaque sonorité en beauté et parfois, oui, en une pop italienne docile et amoureuse. Immensità, son mini-album, il sortait Uomo Donna, son premier disque en 2017. On entend ici la Guerra dei Baci, plus pop, oui. Mais dès le début de sa vie musicale, Andrea Laszlo De Simone nous emmenait dans des contrées chimériques et oniriques desquelles on ne sort pas indemne.
Ed il giorno scaccia i pensieri e si muove al mattino. Ed aspetto per ora per poterti stare vicino. Ed il buio rapisce i tuoi giorni anche ieri passato. E ha portato via tutto lasciandoti un cielo stellato.
Alors Angèle, vous nous avez parlé d'Immensità, d'Uomo Donna, ces deux albums. Est-ce qu'on attend bientôt de nouveaux titres ?
Alors pour l'instant, il n'y a pas de date précise, mais il faut savoir que ce mini-album Immensità devait contenir bien plus de titres. C'est la naissance de son deuxième enfant qui a stoppé le processus. On peut donc parier qu'Andrea Laszlo De Simone a plein de nouvelles chansons dans les tiroirs.
Merci Angèle pour cette découverte. À bientôt.
À bientôt.
Et c'est un très grand bonhomme qu'on va évoquer maintenant, disparu cette semaine, Jean-Claude Carrière.
Les Carnets du Monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
À 89 ans, il a quitté ce monde qu'il aimait tant explorer. Jean-Claude Carrière, l'écrivain, laisse une production immense de scénarii, de livres, de pièces de théâtre et d'adaptations, notamment de grands auteurs étrangers. Tous ceux qu'il connaissait ou l'avaient entendu un jour se souviendront d'un homme à l'écoute, d'une érudition incroyable qu'il savait transmettre avec une élégante simplicité. L'un de ses plus anciens complices et amis, c'est le metteur en scène britannique Peter Brook. Et leur plus grande œuvre commune, c'est sans aucun doute l'adaptation du Mahabharata, gigantesque poème épique hindou. Pour le porter sur scène puis à l'écran, les deux hommes ont voyagé ensemble en Inde pendant une dizaine d'années. Peter Brook a reçu Marion Gauthier chez lui cette semaine pour évoquer son ami Jean-Claude Carrière.
Sur le terrain, chez lui, il était toujours le même. C'était toujours Jean-Claude avec son intérêt pour tout ce qui se passait et en même temps avec son talent inné d'écrivain, tout de suite rentré dans cet immense moulin en lui où tout pouvait rentrer. Nous sommes allés ensemble en Inde. C'était encore une nouvelle ouverture. On est allé non seulement dans les endroits connus, mais dans les... partout. On prenait des taxis pour pouvoir bavarder avec les chauffeurs. On parlait avec tout le monde, les gens dans la rue. On nous a parlé où il y a un temple fascinant à 200 km. Tout de suite, on partait ensemble pour le regarder. Et puis, en prenant le taxi suivant, Jean-Claude travaillait. C'était son bureau en même temps. Il écrivait tout de suite des résumés qu'il lisait à moi, qu'on partageait. Une grande partie de notre travail ensemble était fait dans des cafés, en plein air et surtout dans des voitures partout.
Il aimait passer des histoires, il aimait les transcrire, les traduire, notamment les histoires d'autres continents. Vous avez dit l'Inde, l'Afrique. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier qui décrirait ce Jean-Claude Carrière à enquêter, à écouter?
J'ai 2000 images de lui. C'est toujours lui qui écoute. Et quand j'ai lu quelque chose, et je commençais à dire à Jean-Claude, écoute, il suffit de dire écoute. Et je l'avais 100% avec moi.
Et alors, il y a une autre région qui comptait beaucoup pour Jean-Claude Carrière, c'était la Perse, l'Iran.
Bien sûr. Et là, on a fait des voyages ensemble là-bas.
D'accord.
C'était le pays, comme l'Afrique, où le conteur était tellement apprécié, accueilli, mais il y avait quelque chose de très spécial, comme dans toutes les relations qu'on a dans une vie avec tant de personnes différentes. Et il y a les personnes, comme pour moi, Jean-Claude Carrière, tout de suite, la relation est unique. Et dans tous nos voyages, pour lui et pour moi, l'Iran était, de ce point de vue, unique.
Et alors, comment Jean-Claude Carrière aimait le découvrir, l'Iran?
Ça ne peut pas se résumer. Ça fait qu'on est des chercheurs et on prenait les moyens du bord. Et si c'était quelqu'un qui faisait l'autostop, tant mieux. Si c'était des endroits où on pouvait aller un petit bout à pied, alors à pied. Tout était la recherche. Et recherche veut dire aller à la recherche de l'inconnu. C'est exactement comme ça que Jean-Claude était toujours à la recherche de l'inconnu, pour que ça devienne tout de suite, pas le connu, mais l'accessible.
Jean-Claude Carrière, il a beaucoup parlé du Mahabharata comme la plus grande montagne de sa vie, la plus grande aventure de sa vie, qui avait été très difficile à gravir, mais qu'il ne regrettait évidemment pas. Qu'est-ce que vous en dites?
Je trouve que vous voyez, montagne inaccessible, mais accessible. Tout est dedans. Il faisait tant de choses à pied. On l'a perdu une fois pendant un de nos grands voyages au milieu du désert parce que très tôt le matin, il se levait et a dit « Ah, je vais explorer ». Et il est parti tout de suite à pied dans une direction où personne n'allait normalement. Voilà, Jean-Claude faisait ça. Il était montagnard, il était explorateur. mais il faut insister sur la qualité qu'il avait. Il ne faisait pas de la littérature. Pour lui, la plus belle phrase était la phrase la plus simple. Et ça demande un énorme talent.
Jean-Claude Carrière, il n'y a pas très longtemps, il a dit « Un auteur a toujours plein de cadavres dans le cimetière de ses propres éléphants. Je crois que tout bon auteur doit mourir en laissant beaucoup de projets inachevés. » Et mon rêve, le rêve de Jean-Claude Carrière, serait qu'on publie après ma mort un recueil à Jean-Claude Carrière, début d'histoire avec un S.
Ça, c'est typiquement lui, plein d'humour, très simple, mais on comprend. C'est absolument juste. Il avait des milliers d'idées, de projets, de débuts de l'histoire. Et c'est naturel. Ça fait partie de lui. Voilà.
Voilà Jean-Claude Carrière, explorateur de l'humanité, raconté par son ami Peter Brook. On a entendu l'importance de l'Inde dans ce parcours de vie. Un de ses amis indiens nous a répondu depuis Bombay. Raoul Vora est acteur et metteur en scène. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu dans la comédie musicale Bharati. Lui aussi a pas mal voyagé dans le pays, il se souvient.
Jean-Claude Carrière en Inde, ça ressemblait à un Indien. Il pouvait se mettre dans un kurta pyjama, vous voyez, le vêtement traditionnel indien. Et il pouvait balader, il pouvait manger. Et des fois, les gens, vous savez, quand il y a des touristes qui viennent de la France et de l'Europe, tout le monde dit, oui, voilà, déconseiller ça, ça, ça et ça. Surtout les crédités, surtout manger dans la rue. Et,
ouais.
Et ben, lui, il pouvait manger n'importe où, dans un bidonville, comme dans un 5 étoiles. Ça ne lui dérangeait pas du tout. Il ne tombait pas malade. Il avait toujours du quoi, quelque chose de bien à dire pour tout le monde. Toujours un grand sourire, toujours à l'aise dans la rue et tout. Enfin, pas du tout un Européen, c'était un Indien.
Il disait d'ailleurs qu'il s'y sentait chez lui et qu'il aimait bien parfois s'asseoir dans la rue sur une marche et juste attendre, regarder et rencontrer.
C'est ça, il faisait ça très souvent, très souvent. Il disait, bon voilà, écoute Raoul, vas-y si tu veux, parce qu'on a beaucoup voyagé ensemble ici en Inde. À chaque fois, elle disait, je peux m'en occuper de moi-même, donc t'inquiète, je vais juste flâner dans les rues. Et il disparaissait. Et plus tard, il venait avec plein de friandises, plein de choses, des choses frites dans la rue. Content comme un bébé.
C'est sa curiosité insatiable qui faisait qu'il connaissait si bien l'Inde.
C'est pas seulement la simple curiosité. Je crois que c'était une vraie admiration de tout ce qui est la culture indienne, de la littérature indienne, les formes d'art indien. C'était un grand expert, notamment pour le Mahabharata. Une fois, il m'a raconté qu'ils avaient fait, lui et Peter, 16 ans de recherche pour créer le Mahabharata. 16 ans. Imaginez-vous, aujourd'hui, des auteurs qui font ça.
Ça veut dire qu'il était aussi un véritable ambassadeur de la culture indienne.
Absolument. Déjà avec Mahabharata, ils le sont devenus tous les deux. Peter, lui, quand il mangeait dans les restos, très souvent, il disait que nos discussions se centraient sur les caractères dans le Mahabharata. Il dit, regarde, lui, il a l'air d'un Yudhishthira. Non, lui, il a l'air d'un Shakuni, tu vois. Et il parlait comme ça, vous savez. C'était un grand ambassadeur. D'ailleurs, il a été honoré par le gouvernement indien aussi. Mmh. Il a eu l'équivalent de la Légion d'honneur ici, Padma Shri, donc le quatrième plus grand prix de l'Inde. Comme je vous ai dit, c'était un érudit, il connaissait, je crois qu'il parlait 7 ou 8 langues, si je ne me trompe pas, sanskrit, grec, farsi, dari, espagnol, français, anglais, quelques mots de hindi. Donc, il arrivait à se débrouiller dans toutes les langues, il n'y a pas de problème. Mais, vous savez, c'était comme un enfant. Il voulait tout savoir. Il voulait tout comprendre.
Il était connu, reconnu en Inde?
Très, très reconnu en Inde, car non seulement c'était l'écrivain de Mahabharata, mais aussi, c'est quelqu'un qui est venu faire assez souvent les conférences pour ce qu'on appelle le SDII, donc c'est l'équivalent de FEMIS, de la FEMIS.
L'école de cinéma?
L'école de cinéma à Pune, près de Bombay. Et je me souviens qu'il y a plein d'amis dans le cinéma indien qui disent que la première fois qu'il est venu parler, il a fait une conférence d'une manière telle qu'ils n'avaient jamais entendue. Hier, vous aurez dû voir sur Facebook le nombre d'éloges que les auteurs indiens ont offert à Jean-Claude. Il était aussi président de la jury à un moment donné du Festival national de cinéma.
S'il y a une image que vous gardez de lui, pour vous souvenir de lui,
en Inde.
Une image de lui en Inde. Oui, il aimait, il adorait un endroit ici, pas loin de Bombay, qui s'appelle Ajanta. C'est une collection des grottes bouddhistes du deuxième siècle, deuxième, troisième siècle. Il adorait venir à cet endroit. Je crois qu'il a visité au moins une dizaine de fois de sa vie. Je crois que c'est la dernière fois qu'il était là et il regardait et il disait, mais je veux garder cette image dans ma tête parce que je suis tellement, 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 tellement amoureux de cet endroit que je n'arrivais pas à te dire. Et voilà, j'ai l'image de Jean-Claude devant l'Ajanta, admirateur des fresques, admirateur de la capacité humaine de créer des choses si belles. Je dois vous avouer que je suis au bout de l'âme, mais bon, il faut parler de lui parce que c'était quand même un des grands qui a marché sur cette terre.
Raoul Vora, acteur et metteur en scène indien. Et on va refermer cet hommage avec cette phrase de Jean-Claude Carrière qui nous parle ici au Carnet. Découvrir qu'il y a un autre monde dont nous ne savons rien, sinon par notre regard, ça, c'est important. À méditer pendant la courte pause et on filera en Algérie.
Les Carnets du Monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Dans deux jours, le 16 février marquera les 2 ans de la première grande manifestation du Hirak, cette mobilisation populaire et pacifique des Algériens qui avait mené à la démission du président Bouteflika. Puis, on s'en souvient, les manifs avaient continué, réclamant la fin d'un système politique confisqué. En décembre 2019, un nouveau président était élu, Abdelmajid Tebboune. Et en mars dernier, c'est la pandémie et les mesures sanitaires qui mettaient fin aux manifs hebdomadaires. Depuis, le mouvement populaire s'est poursuivi, surtout sur les réseaux sociaux, et des dizaines d'arrestations ont eu lieu. Bonjour Nour Chahin.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondant à Alger et vous êtes allé tendre le micro à des Algérois pour leur demander s'ils souhaitaient le retour de ces marches hebdomadaires comme certains le demandent.
Alors il faut comprendre ou prendre en compte en fait d'abord la situation sanitaire, même si le virus est relativement maîtrisé. L'Algérie a enregistré en tout moins de 3000 morts depuis le début de la pandémie. Mais voilà, plus d'une année que les frontières sont fermées, tout tourne au ralenti, les activités économiques, scolaires et même l'université n'ont pas totalement repris. Dans cette ambiance, la priorité pour beaucoup demeure la santé, mais également l'emploi. C'est en tout cas ce que pense Walid, un étudiant de 21 ans que j'ai rencontré à Alger.
Pour être franc, avec la crise sanitaire et puis la crise économique, là, mes priorités personnellement, ce n'est pas les revendications du Hirak. Actuellement, je pense beaucoup plus à comment m'en sortir, à savoir qu'en tant qu'étudiant, est-ce qu'il y aura de l'emploi pour moi après, et puis ma santé, je dois faire attention à ma santé, à ma famille. Donc, est-ce que j'ai bon espoir? Je sais que le gouvernement en place est en train de faire certaines choses. Est-ce que ça va marcher ou pas? Seul l'avenir nous le dira.
Alors, autre son de cloche très mesuré, à nouveau celui de cette médecin Selma, qui m'a reçu d'ailleurs dans son cabinet et qui a participé aux manifestations du Hirak jusqu'au dernier vendredi. Elle préfère prôner la prudence. Ce dont elle a peur vraiment, c'est une éventuelle déstabilisation politique du pays.
Vous savez, l'objectif pour les citoyens, c'est de s'en sortir et puis aller de l'avant. Construire le pays, la nation, s'orienter beaucoup plus vers le développement de l'Algérie, parce que rester dans les revendications, le Hirak comme on l'appelle, c'est stagner. Et on a vu ce qui est arrivé au printemps des peuples, comme on l'appelle entre guillemets, dans les pays comme la Libye, la Syrie, la Tunisie. Ce sont des pays qui s'en sont très mal sortis, qui n'ont eu ni la démocratie, ni un État développé. Voilà, ils sont retournés encore dans des situations politiques très précaire et catastrophique.
Alors on entend comme un peu partout finalement dans le monde de l'inquiétude face aux incertitudes sanitaires, économiques et politiques en l'occurrence, mais est-ce que les revendications du Hirak ont été entendues par la nouvelle équipe au pouvoir ou alors est-ce qu'elles sont toujours d'actualité, Nour ?
Et bien sur le plan politique, il y a eu une révision de la Constitution. D'autres chantiers sont en cours, comme le code électoral ou la loi sur les partis politiques. Des réformes censées apporter plus de transparence, d'équité, une moralisation de la vie politique. C'est ainsi que ces réformes sont présentées, en tout cas par le gouvernement algérien. Mais les plus militants du Hirak ne le voient pas du tout de cet œil, comme Nordine, 31 ans, au chômage depuis 8 mois, et qui faisait partie des animateurs du Hirak chaque vendredi.
Oui, concernant le Hirak, je pense que le pouvoir a vraiment profité de la pandémie pour mettre fin à ce qui restait du Hirak. Il faut continuer le combat. Les revendications du Hirak n'ont pas été satisfaites. Il y a même un recul en matière de liberté individuelle et collective.
Alors le Hirak, ce grand mouvement populaire, avait soulevé beaucoup d'espoir, espoir d'un avenir meilleur. Mais jusqu'ici, le quotidien des Algériens ne s'est pas amélioré, Nour.
Disons que le quotidien des Algériens est animé en ce moment par d'autres soucis plus urgents. Cela, en fait, ce que craignent aujourd'hui les Algériens, mais également le gouvernement en place, ce sont les conséquences sociales du Covid. Il faut comprendre que cette crise s'ajoute à d'autres et achève de mettre l'économie à genoux. Il y a la chute des revenus pétroliers qui pèse depuis 2014 sur l'économie. Et puis, la crise politique et ses incertitudes en 2019, suivie juste après par la crise sanitaire, une situation difficile que résume très bien Hamid, 65 ans. Il est économiste et à la tête d'une entreprise dans le BTP.
Le débat politique, évidemment, il faudrait qu'il reprenne. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Hein, comme disait le grand Amirat, entre l'Algérie et la démocratie, eh ben, il n'y a pas à choisir. On choisit l'Algérie. La véritable menace, c'est la pauvreté. Surtout avec cette pandémie. Il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le carreau. Il y a un chômage massif, des entreprises qui ferment. Il y a des pans entiers de l'économie qui sont en train de faire faillite. Les priorités ont changé et je pense que la démocratie peut attendre.
La démocratie peut attendre. Beaucoup ne l'exprimeraient pas forcément avec ces mêmes mots. En tout cas, du côté des autorités algériennes, on ne veut prendre aucun risque. À l'approche de la date symbolique du début du Hirak, le 22 février, on observe dans les grandes villes une présence accrue des forces de police.
Merci Nour de ces échos d'Algérie avec un contexte toujours compliqué. Hein, on l'a entendu. À très bientôt.
À bientôt.
Et on poursuit l'échange avec Hakim Haddad qui est depuis peu à Paris et ici avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des cofondateurs du RAJ, trois lettres pour Rassemblement Action Jeunesse, une ONG qui a presque 30 ans et qui est impliquée dans le Hirak depuis le début. On l'a entendu, hein, la pandémie aggrave encore une situation économique qui était déjà pas bonne. Beaucoup de chômage, beaucoup d'inquiétudes au quotidien. C'est ça aujourd'hui qui est potentiellement explosif ?
D'abord, merci de l'invitation. Oui, ça vient se rajouter, ça vient se greffer aux autres revendications, en l'occurrence politiques, de changement de régime. Je rappelle que c'est ça, le Hirak. C'est en tout cas les marches du Hirak et les revendications, c'est d'aller vers un état de droit qui respecte la justice et ses citoyens. Donc, la situation sociale, économique, effectivement, qui s'est aggravée encore plus ces derniers
Surtout
mois.
Surtout qu'il y a beaucoup de travail informel, donc voilà, les gens sont touchés de plein fouet.
Voilà, et ça se compte par vraiment des dizaines de milliers qui nourrissent beaucoup de familles, sont totalement marge de la société, aucun revenu depuis presque un an maintenant. Donc effectivement, c'est une situation qui vient se rajouter un peu à la frustration que nous avions eue quand nous avons appelé à cesser ou à suspendre plus exactement les marches du Hirak il y a en mars dernier.
Face à la baisse du pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement a promis une aide économique, une prime de 10 000 dinars aux familles modestes. Je vous vois sourire.
Oui, bien sûr, 50 euros, voilà ce que ça fait pour ceux qui ne sauraient pas, 50 euros pour des familles qui ont 4 à 6 à 8 personnes à nourrir et à habiller et à payer l'électricité, etc. Je pense qu'effectivement, le ridicule ne tue pas. Les autorités ne savent plus trop comment gérer leur barque et au lieu de répondre, on peut toujours rêver aux revendications politiques du Hirak, ce qui permettra ensuite d'aller vers les questions économiques, il répond par des petits ajustements comme celui que vous venez de citer.
Vous nous dites que ce ne sont pas deux sujets, ce sont des sujets qui sont liés.
Bien évidemment, la question politique et la question économique sont intimement liées, mais c'est d'abord la stabilité politique. Un État et un pays stable politiquement peut produire ensuite économiquement. Le contraire ne s'est pas énormément vu sur cette planète.
Sur le plan politique, justement, les militants du Hirak se sont beaucoup reportés sur les réseaux sociaux pour s'exprimer, mais ça semble risqué. Certains ont été arrêtés.
Oui, tout est risqué. À partir du moment où on parlait dans la rue et on nous arrêtait dans la rue, maintenant, avec les confinements et les mesures de sécurité, on parle beaucoup à travers les réseaux sociaux. Donc effectivement, que ce soit des militants d'ailleurs ou des citoyens tout simplement lambda.
C'est-à-dire qu'on peut aller en prison pour un post Facebook ?
On peut aller énormément de gens sont aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a plus de 90 personnes qui sont détenues d'opinion pour des posts Facebook, effectivement. J'ai personnellement moi-même fait quelques mois de prison. J'ai ensuite été mis sous contrôle judiciaire. Juste, effectivement, encore une fois, pour des posts Facebook, un simple citoyen
sous quel chef d'inculpation ?
Pour un post Facebook, quel que soit le sujet, c'est atteinte à l'intégrité nationale et atteinte aux institutions, entre autres, appel à manifester. Voilà.
Alors, il y a des activistes, des jeunes blogueurs, il y a aussi des journalistes en prison, notamment Khaled Rahreni, journaliste condamné à 2 ans en appel et qui est déjà depuis 11 mois derrière les barreaux. On lui avait demandé d'arrêter d'exercer son métier, il a continué. Khaled Rahreni est devenu un peu le symbole du musellement des médias.
Du musellement tout court. effectivement, puisque c'est un journaliste, il est devenu un peu le symbole de la liberté d'expression. Nous militons, que ce soit en Algérie ou ailleurs, avec le comité international pour sa libération, parce que le 25 de ce mois aura lieu
la cassation,
pourvoi en cassation qui sera étudiée à la Cour suprême. Donc nous espérons et nous faisons en sorte que le pouvoir algérien relâche ce personnage qui est condamné pour les mêmes chefs d'inculpation dont je vous parlais tout à l'heure et qui pourtant faisait que son travail d'informer le monde de ce qui se passait de positif en plus en Algérie.
Est-ce qu'il y a un canal de dialogue qui s'est ouvert avec la société civile, les partis, les associations, les collectifs de personnalités qui s'exprimaient à travers le Irak et qui s'expriment encore?
Pour répondre franchement, non, il n'y a aucune volonté de la part des autorités, malgré sa fameuse phrase « je tends la main », de discuter, de prendre en compte les revendications du Irak ou même de rencontrer des personnes ou des personnalités ou des meneurs ou meneuses. La seule réponse, c'est la répression permanente, ce qui nous fait dire, nous, et à l'approche du 16 et du 22 justement, que nous allons continuer, nous allons reprendre la rue, bien évidemment tout en étant responsables.
Oui, mais parce qu'il y a une pandémie aussi.
Voilà, oui, non, ça,
notamment.
Absolument, puisque le Hirak est d'autant plus responsable, puisque c'est lui qui avait appelé au gel de ces manifestations. Mais la situation est tellement grave aujourd'hui qu'on ne peut plus rester juste derrière nos écrans. Il faut aussi ressortir, encore une fois, en prenant en compte les mesures qu'il faut prendre, quoi.
Merci beaucoup, Hakim Haddad. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs de l'association RAJ, Rassemblement Action Jeunesse. Vous retournez en Algérie ?
Le plus vite possible. Il y fait encore plus chaud.
Merci.
Au propre et au figuré.
Merci de votre visite sur Europe 1.
Merci.
Notre prochaine destination, c'est l'Autistan. Joseph Chovanec nous rejoint en chair et en os cette semaine.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Entre deux trains, il passe par le studio d'Europe 1. Joseph Chovanec est avec nous. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Philosophe, autiste Asperger et voyageur toujours. C'est une des innombrables journées mondiales qui vous inspire aujourd'hui quelques réflexions.
Oui Sophie, mais ce n'est pas la journée la plus connue, hélas. Le troisième lundi de février, demain, donc c'est la fête du patrimoine canadien.
Ah,
je ne sais pas quelle impression ces mots vous font. Hein. Moi, ils me laissent songeur. Qu'est-ce qui exactement rentre dans le patrimoine canadien quand on a un territoire immense avec à peine 38 millions d'habitants qui ont des racines du monde entier? Définir le patrimoine national, ce n'est pas facile.
Bon, je tente. Le sirop d'érable, la cabane dans les bois.
Le sirop d'érable, c'est un peu pour les touristes,
okay,
je crois.
Ok, ça s'est fait.
Mais pendant mon enfance, l'image emblématique du Canada, pour moi, c'était le fameux château de Frontenac hein, qui domine la ville du Québec. Il a fière allure sur les photos, vous le connaissez sans doute. Bien des années plus tard, alors que je découvrais enfin le Canada pour de vrai, le mythe s'est effondré. Non seulement il ne s'agit pas d'un château, mais d'un hôtel. D'autre part, il est récent et son nom qui fleure bon la vieille noblesse française, eh bien, n'a rien à voir avec le bâtiment. Hein. Finalement, c'est sans doute le lot commun de beaucoup de ces monuments emblématiques à travers le monde. Mais passons.
Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé d'emblématique pour remplacer le château de Frontenac?
Mais j'avais pensé à la modernité triomphante, à ces bâtiments un peu futuristes pour un jeune Européen. Quand on arrive dans une ville avec des gratte-ciel à l'américaine, ça vous marque. Hein. Un jour, après une longue marche, car oui, à Montréal, les distances sont plus grandes qu'à Paris, par exemple. Je suis arrivé au fameux parc olympique, à l'architecture extraterrestre ou presque. Cette hypermodernité est-elle le cœur du patrimoine canadien? J'ai très vite compris l'ampleur de mon erreur. Hein. Mes amis canadiens m'ont vite expliqué que pour eux, le parc olympique était surtout associé à des années de corruption, d'errance politique, de mauvaise gestion des chantiers, etc. Et puis, les Montréalais, pour aller entre guillemets en ville, prennent le train ou le bus jusqu'à New York, car ce que je prenais pour l'icône du progrès, donc Montréal, hein, visiblement, eux, ça ne leur suffit pas.
C'est vrai que New York, c'est tout près. Bon, alors, où est le patrimoine canadien, alors?
Sophie, je ne suis pas restée sur cette déception. Hein. Pour moi, le patrimoine canadien peut se définir par deux choses. Hein. Premièrement, le patrimoine précolonial, indien, si vous préférez, très spécifique. Hein. Et à ce titre, mon meilleur souvenir reste le musée national, c'est tout près d'Ottawa. Ottawa, qui est essentiellement consacré à reconstruire ces univers culturels des différents peuples d'avant la colonisation. Alors, ce musée n'est pas une collection mathématique d'objets dans des vitrines, mais il reconstitue ces ambiances, et si bien qu'on s'y croirait. La récente montée en popularité au Canada, mais aussi par exemple en Australie, de ce patrimoine culturel, à mon avis, c'est un basculement culturel de première envergure.
Le patrimoine des peuples autochtones.
Tout à fait. Et puis deuxièmement, pour moi, le Canada, c'est aussi le lieu de la facilité du contact humain. Des gens s'y sont retrouvés il y a quelques siècles dans des conditions difficiles et les hiérarchies européennes sont passées à la trappe. Et un sens profond de l'égalité et du contact a pris le dessus. Parmi les plus beaux exemples, on pourrait prendre ces noms de famille, typiquement canadiens, simples, charmants, pas du tout snob. Je pense à la fleur, l'amourette, ou au contraire, le fait de ne pas avoir de ces meubles à l'européenne et d'entendre dire « tire-toi une bûche », sous-entendu « prends une bûche, assieds-toi près de moi ». Enfin, d'une certaine façon, Canada, cela veut dire en langue iroquoise « village ». Et peut-être que nous pouvons nous aussi reconstituer près de chez nous un village, faire notre Canada en quelque sorte.
Et ô combien on en a tous besoin en ce moment de ces contacts humains. Faisons notre Canada, donc. Merci beaucoup, Joseph.
Merci, à tout bientôt.
À dimanche prochain. Clap de fin, on referme les carnets du monde, le temps d'écrire de nouvelles pages. Merci de nous avoir accompagnés dans nos vadrouilles. Et je cède la place à l'ami Nicolas Caro et aux univers que nous ouvre la littérature. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Quel est le programme ?
Ah bah un univers sombre de littérature, là, puisque c'est une spéciale Stephen King aujourd'hui qui publie
Trembler.
Un nouveau livre qui est génial. Et donc on va parler avec son éditrice en France et puis on lira Marche ou crève, un de ses chefs-d'œuvre. Et puis Victor Dolande consacre sa chronique jeunesse aussi à Stephen King, puisque c'est aussi un auteur pour ados, mais pas seulement.
Oui. La Voix au Livre, dans quelques minutes, à écouter sans modération. Bonne émission.
À tout de suite.
Avec Marc Fréjean qui a réalisé ses carnets et Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer, on vous souhaite un bon dimanche à l'écoute d'Europe 1. Rendez-vous dimanche prochain, 13h sans faute. Et d'ici là, portez-vous bien.